Mesdames, Messieurs, chrétiens, catholiques, vous êtes venus pour écouter la voix du magistère de l'Église, par Saint Pilis, de son encyclique Pacem Dei. Le 8 septembre 1907, il y a donc 100 ans, le pape Saint Pilis, avec une fine analyse, a condamné par son encyclique Pacem Dei une singulière et nouvelle hérésie. Cette hérésie ne consistait pas, comme les précédentes, à nier telle ou telle vérité de foi, à faire un choix entre les vérités à croire, puisque le mot hérésie en grec signifie faire un choix, mais le modernisme était une hérésie qui consistait à changer et à pervertir la notion même de la foi. Ce n'est point aux branches et aux rameaux, dit Saint Pilis, que les modernistes ont mis la cognée, la hache, mais c'est à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Pacem Dei numéro 1. Et donc le but de mon petit exposé est d'abord de vous montrer les origines du modernisme. Ensuite, nous verrons le modernisme tel que Saint Pilis l'a condamné. Ensuite, nous verrons les applications actuelles du modernisme, spécialement l'exégèse, que je vais répéter un peu ce qui a été dit. Ensuite, l'historicisme, c'est-à-dire l'évolution du dogme. Et enfin, la révision, la relecture moderne des grands dogmes de l'incarnation, de la rédemption et du Christ roi. Donc c'est un petit peu un exposé à la fois historique et en même temps très actuel. Et je crois que je vais davantage traiter l'actualité du modernisme que l'actualité de Pacem Dei, mais ça revient au même. En première partie, l'origine du modernisme. Eh bien, on peut le dire, l'origine du modernisme, c'est l'idéalisme kantien. L'origine de la foi subjective des modernistes, c'est l'idéalisme de Emmanuel Kant, 1724-1804. Pour le philosophe de Königsberg, en plus oriental, qui était le contemporain de Jean-Jacques Rousseau, pour lui, nos idées générales, nos principes, ne tiennent pas leur nécessité de la nature des choses, qui est inconnaissable. L'intelligence est incapable de connaître la nature des choses. Ce qu'est un chat, ce qu'est un chien, ce qu'est l'homme, l'intelligence ne peut pas le connaître. Et donc, d'où viennent nos idées générales et nécessaires? Elles viennent de la seule raison, et non pas des choses. Nos idées générales et nos principes viennent de notre raison, et non pas des choses. Elles viennent de notre raison et de ses catégories subjectives innées. Par exemple, l'idée de substance, l'idée de cause, ce sont des catégories subjectives de mon intelligence, et non pas des genres de l'être réel. La raison seule structure le réel et lui donne son intelligibilité. Si nous pouvons comprendre une chose, ce n'est pas parce qu'elle est intelligible, mais parce que nous la structurons. Nous la faisons rentrer dans les cases de de nos catégories subjectives. Et il faut dire que la science physique moderne a suivi cet idéalisme avec succès, en tenant que le monde physique reste opaque à la raison, que nous ne pouvons pas connaître la nature ou l'essence des choses, que nous ne pouvons avoir que des représentations mathématiques du monde physique ou symboliques, avec une notion d'énergie, d'onde et des choses comme cela, qui sont des symboles mathématiques. Et nous n'avons que des théories scientifiques approchées et jamais adéquates au réel, et toujours perfectibles. Voyez donc le succès de Kant dans l'ordre des sciences physiques. Le malheur, c'est qu'on va vouloir appliquer cela, il va vouloir appliquer cela à la philosophie et à la religion. Kant ne voit pas que les êtres réels, l'essence des choses, par exemple, ou encore l'être même, l'existence, ou encore l'être premier, la cause première, Kant ne voit pas que ces réalités sont au contraire souverainement intelligibles en elles-mêmes, et d'autant plus intelligibles que ces êtres sont plus immatériels. La conséquence de cette inconnaissance, qu'on appelle aussi agnosticisme, on ne peut pas connaître l'être des choses, on ne peut pas connaître l'être en tant que tel, ce qu'on appelle l'être en tant qu'être, ce que c'est que exister, qu'est-ce que c'est ? On ne peut pas le connaître, dit Kant. La conséquence de cet agnosticisme, c'est que, eh bien, l'analogie de l'être est indéchiffrable. Il n'y a pas, entre tous les êtres qui existent, un rapport d'analogie qui puisse aider à raisonner de l'un à l'autre. Également, le principe de causalité, tout effet s'explique par une cause, ce principe de causalité n'a aucune valeur métaphysique, c'est-à-dire ontologique. Si bien que la conséquence, c'est qu'une quelconque analogie entre les créatures et le créateur, est inconnaissable. Vouloir remonter des créatures au créateur pour dire quelque chose de Dieu, c'est impossible. Parce que l'analogie de l'être ne vaut pas. Dire que Dieu est l'être premier, ça n'a aucun sens. Ça serait presque un blasphème pour Kant. L'analogie de l'être n'existe pas. De même que l'analogie entre le bien sensible, objet du désir, et le bien honnête, objet de la vertu. Il n'y a aucun rapport. On ne peut faire aucun raisonnement à partir du désir naturel des choses sensibles pour expliquer le désir naturel spirituel du bien. Aucun rapport. Donc, la raison ne peut connaître, d'après Kant, ni l'existence, ni les perfections de Dieu. C'est donc ruiner ce qu'on appelle la théologie naturelle, la théodicée, la connaissance de Dieu par la simple raison. Et pourtant, le Concile Vatican I a bien rappelé que nous pouvons connaître l'existence et les perfections divines à partir des créatures. Eh bien, Kant nie cela. Nous ne pouvons, par notre raison, connaître ni l'existence ni les perfections de Dieu. De même, autre conséquence, les analogies révélées dans l'Évangile, dans la Bible, les analogies révélées que Dieu a utilisées pour nous parler, qui nous dévoile ces mystères surnaturels, sont fatalement des métaphores. Puisqu'il n'y a aucun rapport entre Dieu et sa créature. Tout ce que Dieu nous dit, ce sont des métaphores. Par conséquent, toute parole de Dieu ne peut être qu'allégorique. Et tout discours humain sur Dieu, inversement, ne peut être que mythologique. C'est l'application à la religion. Enfin, l'application à la morale, de cet agnosticisme kantien, en morale, l'acte bon, vertueux, n'est pas celui qui a un objet et une fin conformes à la nature humaine, inconnaissable. Mais c'est là, c'est l'agir dans l'indépendance de tout objet et de toute fin, par pur devoir, pour respecter en soi-même l'humanité, dit Kant. Et comme une telle vertu, agir par pur devoir, par respect envers l'humanité en soi, comme une telle vertu est quasi stoïcienne et ne coïncide pas avec le bonheur, ici-bas, l'homme vertueux n'est pas vraiment heureux, eh bien, elle postule l'existence d'un Dieu rémunérateur dans l'au-delà. Et donc, l'existence de Dieu découle simplement d'un besoin, d'une récompense ou d'une sanction éternelle de la vertu. Donc Dieu n'est pas la clé de la morale. Dieu est une adjonction accidentelle de la morale. La nature humaine est inconnaissable, nous n'en connaissons pas les lois, nous n'en connaissons pas l'auteur. Dieu n'est pas l'auteur de la nature humaine, Dieu n'est pas l'auteur de la loi morale. Dieu sert comme une adjonction accidentelle à la morale. Voilà donc l'origine du modernisme, l'idéalisme kantien. On va dire comment ? Venons-en au modernisme condamné par Saint Pie. L'idéalisme de Kant réside donc dans deux principes cohérents entre eux, l'inconnaissance métaphysique et morale, qu'on appelle l'agnosticisme, on ne peut pas connaître la nature des choses, on ne peut pas connaître ce que c'est que l'action bonne, et d'autre part, et deuxième principe, l'autonomie de la raison théorique et de la raison pratique qu'on nomme l'immanentisme, c'est-à-dire que toute connaissance sort du sujet et toute bonté morale vient du sujet connaissant et non pas de l'objet. Donc les deux principes de la philosophie kantienne sont l'agnosticisme, l'ignorance des natures et de Dieu, et l'immanentisme, toute connaissance vient du sujet, de ses catégories subjectives. Eh bien, ce sont ces deux principes que Saint-Pédis découvre dans le modernisme, dans la conception purement subjective de la foi. Pour la foi catholique, son objet est proposé de l'extérieur. Je parle de la foi catholique. L'objet est présenté de l'extérieur par l'autorité divine, représentée par le magistère de l'Église. Et cet objet extérieur, le mystère divin, s'impose à mon intelligence en raison de l'autorité de Dieu qui révèle, et non pas par l'autorité de ma raison. Donc la foi catholique vient de l'extérieur, les mystères divins qui nous sont présentés de l'extérieur par Dieu et par l'Église et auxquels j'adhère avec mon intelligence à cause de l'autorité de Dieu qui révèle et qui est souverainement vérace, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Au contraire, la foi modernisme vient du dedans de moi-même, d'où le mot immanence ou immanentisme, immanere, demeurer en. Ça vient de l'intérieur. Voilà la différence. La foi catholique vient de l'extérieur, de mystères objectifs que je n'ai pas fait, qui s'imposent à moi. Au contraire, la foi moderniste vient de mon intérieur. Elle est immanentiste. Elle est l'émanation, on pourrait dire, émanation du besoin religieux, dit Saint Pie. Ou encore, cette foi moderniste est l'expression de mon expérience religieuse de croyant. Donc, à la racine du modernisme, il y a l'expérience religieuse. Chacun doit, dans sa vie, faire une expérience originelle d'où jaillit sa foi. Vous voyez l'erreur, parce que qui va vers une expérience originelle? Il y a des grâces mystiques, mais ce n'est pas le commun des fidèles. Donc, la foi, pour les modernistes, est l'émanation du besoin religieux ou l'expression de l'expérience religieuse du croyant. Ensuite, deuxième étape, la foi va objectiviser, excusez-moi ce barbarisme, ou objectiver, mais disons objectiviser, c'est mieux. La foi va objectiviser et concrétiser son expérience subjective par des symboles imagés, que sont les récits évangéliques. Par exemple, le récit de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va imager et exprimer eh bien, le pouvoir de souverain juge de Jésus. Voilà, il est monté au ciel pour être notre souverain juge, par exemple. Donc, mon expérience originelle va être objectivisée par des symboles imagés, que sont les récits évangéliques, puis les formules représentatives de ces symboles, qui sont les dogmes. Donc voilà comment les modernistes expriment l'origine des évangiles et des dogmes. Ce sont de purs symboles de ma foi subjective. Donc, si vous voulez, dit d'une autre manière, la foi moderniste a un double mouvement. D'abord, historiquement, un mouvement centrifuge qui part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien centrifuge. De l'intérieur vers l'extérieur. Un mouvement de création vitale, de transformation de mon expérience originelle en symbole expressif de cette expérience. Et l'Église, de ces symboles, va faire des dogmes. Et puis ensuite, un deuxième mouvement centripète, qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, à la suite des temps, par lequel le croyant va vers une interprétation vitale des symboles et des formules des dogmes que nous donne l'Église pour vivre ma foi. Pour vivre ma foi, je dois interpréter les dogmes vitalement pour en vivre, pour intérioriser ma croyance et qu'elle devienne ainsi source de vie intérieure. Remarquez bien que le principe est juste. Ma foi doit être principe de vie intérieure. Seulement le moderniste entend par cette intériorisation une déformation. Nous allons voir. Donc c'est ce qu'on appelle l'intériorisation des dogmes pour les vivre. Saint Pédis a analysé ce double processus, centrifuge et centripète, et a dégagé l'essence du modernisme, qui est, il me semble, d'affirmer que les dogmes ne sont que des symboles. Quelques citations. Pour faire ressortir cette vérité qui complète ce que mes confrères ont dit au sujet du modernisme. Je cite Saint Pédis dans Tachelier. C'est l'office de l'intelligence. Donc d'abord il y a le sentiment et ensuite il y a l'intelligence. Le sentiment c'est l'expérience. Puis ensuite l'intelligence va faire les dogmes. Écoutez bien. C'est l'office de l'intelligence, faculté de pensée et d'analyse, dont l'homme se sert pour traduire d'abord en représentation intellectuelle, puis en expression verbale, les phénomènes de la vie dont il est le théâtre dans le plus profond de son être. C'est l'intelligence qui va interpréter mes sentiments pour en faire des symboles. De là ce mot devenu banal chez les modernistes, l'homme doit penser sa foi. Fin de citation. Donc le produit de cette pensée, ce sont les formules de foi. Je cite, Celles-ci, venant à être reçues par le magistère de l'Église, deviennent des dogmes. Fin de citation, numéro 12. Autre citation, numéro 13. Ces formules de foi constituent, entre le croyant et sa foi, une sorte d'entre-deux. Par rapport à la foi, ces formules ne sont que des signes inadéquats de son objet. Dire que Jésus est fils de Dieu, c'est un signe inadéquat de la réalité. Vulgairement, ce sont des symboles. La notion de fils de Dieu, c'est un symbole. Une réalité qui n'est pas forcément la divinité de Jésus. Je continue la citation, numéro 13. D'où l'on peut déduire que les formules dogmatiques ne contiennent point la vérité absolue. Comme symboles, elles sont des images de la vérité. Conséquence, numéro 16. La doctrine de l'expérience, jointe à la doctrine du symbolisme, consacre comme vraie toute religion. Parce que toute religion fait des expériences religieuses et a des dogmes. L'islam a ses dogmes. L'islam a ses symboles. Donc, toute religion qui a une expérience et un symbolisme, toute religion est vraie. Donc, je retiens ici, de ces textes de Saint-Pilice, l'essence du modernisme, selon Saint-Pilice, c'est l'expérience religieuse et le symbolisme. À la racine, il y a une expérience religieuse et ça aboutit à des symboles. Les dogmes ne sont que des symboles qui m'aident à... Nous allons voir. N'allons pas trop vite. Les symboles ont un double rôle. Extérioriser la foi subjective en la rendant objective, communicable en Église. Communicable en Église. Et le magistère consistera à contrôler et à vérifier et à unifier l'expérience commune des fidèles en Église. Par exemple, au cours de la célébration eucharistique, expérience commune. Le magistère contrôlera et unifiera l'expérience commune par l'unique sujet Église, comme dit le cardinal Ratzinger. Et réciproquement, les symboles ont un autre rôle, d'intérioriser les croyances communes, divinité de Jésus-Christ, intérioriser les croyances communes grâce à leur puissance d'évocation des états d'âme du croyant. Jésus-Christ, fils de Dieu, eh bien, ça met en acte, en activité, mon état d'âme de me considérer aussi comme fils de Dieu, par exemple. Les symboles aident à évoquer mes états d'âme. Il suffit de décrypter le sens métaphorique des symboles dogmatiques. Bien. Saint-Pilice donne un exemple. Le Christ de l'histoire et le Christ de la foi. Je résume. Le Christ de l'histoire, donc le Christ historique, qui a réellement vécu, c'était un pur homme. Mais un homme d'une nature exceptionnelle, dit Saint-Pilice, pour expliquer le modernisme. Numéro 1, numéro 11. Alors, ce pur homme d'une nature exceptionnelle a été sublimé par la foi des premiers chrétiens en un Christ de la foi, qui lui est le Fils de Dieu et qui a fait des miracles. Numéro 10. Donc, il y a un double Christ. Le Christ réel, historique, qui n'était pas Dieu, qui était un peu extraordinaire, et puis le Christ de la foi, qui est Dieu et qui a fait des miracles. Alors comment concilier les deux? Le moderniste, s'il est philosophe et historien, va nier que selon la vérité historique, le Christ soit Dieu. Et s'il est exégète, il suspendra son jugement sur la divinité du Christ. Nous n'en pouvons rien dire. Tout ça, c'est des symboles. Mais, si le moderniste est croyant, parce qu'il se dit croyant, il affirmera la divinité de Jésus. parce qu'ils considèrent la vie de Jésus-Christ comme vécue à nouveau par la foi et dans la foi, par lui-même croyant. Vous voyez cette dichotomie de Jésus-Christ, le Christ de l'histoire et le Christ de la foi, que le moderniste réconcilie. S'il est critique et historien, il va vous nier Jésus n'est pas Dieu. S'il est exégète, il dira on ne peut rien en dire. Et s'il est croyant, parce qu'il se prétend croyant, il dira oui, je crois à la divinité de Jésus-Christ parce que ça m'aide à vivre intérieurement ma foi. Au fond, peu importe au moderniste la réalité extra-mentale de ce qu'il croit, l'important est que ce qu'il croit, à savoir des symboles, l'aide à évoquer ses problèmes psychologiques et à les situer et à les résoudre. On a ici une petite application à la fois de la théorie du philosophe allemand Edmund Husserl, fondateur de l'école phénoménologique. Il y a, disons, une ressemblance. Pour Husserl, le monde extérieur tel qu'il est n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le vécu existentiel, le vécu représentatif. La force de représentation des idées. L'important, c'est que vous en viviez. Peu importe l'existence ou la non-existence des choses. Donc, c'est la théorie de la phénoménologie qui se désintéresse, qui met entre parenthèses la réalité du monde extérieur, sans la nier, on la met entre parenthèses, parce qu'elle ne nous intéresse pas. L'important, c'est d'étudier toutes les conditions du vécu existentiel. Une petite citation de Husserl, si ça vous intéresse. Le donné, ce qui est donné à ma conscience, mon vécu, le donné est une chose essentiellement la même, que l'objet représenté existe, ou qu'il soit imaginé, ou qu'il soit peut-être absurde. Vous avez une application ici au modernisme. Mon vécu intérieur est l'essentiel, peu importe que ce que j'appelle la divinité de Jésus-Christ soit une réalité ou une erreur ou une imagination. On voit dans Husserl, qui était un contemporain de Loisy, qui a vécu de 1859 à 1938, il n'a jamais appliqué ça à l'Église, à la foi. Il était hébreu, il n'a pas appliqué ça à la foi, c'était un pur philosophe, mais on voit une convergence des idées. C'est intéressant. On voit qu'à cette époque, c'était dans l'air. Se désintéresser du réel pour s'intéresser seulement au phénomène intérieur de conscience. Or, c'est cette philosophie qui peut être le modernisme. Donc, au fond, je répète la première conclusion de cette partie philosophique et historique, l'origine du modernisme, ma conclusion, au fond, peu importe au moderniste la réalité extra-mentale, extérieure, de ce qu'il croit, même l'existence de Dieu. L'important, c'est que ce que je crois, à savoir les symboles, m'aide à évoquer mes problèmes psychologiques, à les situer et à les résoudre. Ça vous semble invraisemblable. Et c'est pourtant ce qui existe actuellement. Alors, maintenant, actuellement, l'exégèse de l'Évangile. Selon le théologien Joseph Ratzinger. Le théologien, quand il était théologien. Voici comment le théologien de Tübingen, en Allemagne, dans son livre « Foi chrétienne hier et aujourd'hui » de 1968, réédité sans changement en 2005, en disant qu'il n'avait rien à changer substantiellement, et il n'a rien changé. Voilà comment donc le théologien Joseph Ratzinger interprète trois articles de la foi, de notre credo, et qui sont des contenus dans l'Évangile. est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité mort, est monté aux cieux. Le premier n'est pas contenu dans l'Évangile, mais il est dans la Sainte Écriture ailleurs. Alors voyons le commentaire de Joseph Ratzinger, qui était seulement abbé à ce moment-là, sur ces trois faits de la vie de Jésus. Comment ai-je comme exégète, comme commentateur de la Sainte Écriture, il va interpréter ces trois faits de la vie de Jésus. Premièrement, est descendu aux enfers. Donc, vous savez que Jésus est descendu au limbe pour délivrer les âmes des patriarches de l'Ancien Testament, juste, qui attendaient la délivrance pour monter au ciel avec lui. Donc Jésus a visité les âmes des limbes. Petit Joseph Ratzinger est descendu aux enfers. Aucun article de foi n'est aussi étranger à notre conscience moderne. Ça, c'est la majeure, la thèse. Antithèse, mais non, quand même. Antithèse, n'éliminons pas cet article de foi. Il représente l'expérience de notre siècle. L'expérience de la déréliction par l'absence de Dieu. Donc Jésus-Christ fait l'expérience sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» a dit Jésus sur la croix. Il a fait l'expérience de la déréliction par l'absence de Dieu. Eh bien, la descente aux enfers, c'est cela. C'est un symbole pour exprimer notre déréliction moderne par l'absence de Dieu. Donc cet article de foi exprime, je cite, que Jésus a franchi la porte de notre ultime solitude, qu'il est entré à travers sa passion dans l'abîme de notre déréliction. Fin de citation. Et alors les limbes, visitées par Jésus, eh bien elles sont le signe de ce que, je cite, là où aucune parole ne saurait nous atteindre, il y a lui. Ainsi, l'enfer, je continue la citation, l'enfer est surmonté, ou plutôt la mort, qui auparavant était l'enfer, ne l'est plus, depuis que dans la mort habite l'amour. Fin de citation. Page 213. Donc voilà une interprétation de la descente aux enfers. L'expérience psychologique de la déréliction, par l'absence de Dieu, qui va être surmontée par l'amour. C'est la descente aux enfers. Deuxièmement, est ressuscité des morts. J'explique. L'homme est voué à la mort. Jésus, comme homme, était-il voué à la mort? Ou Jésus peut-il faire exception? Et moi-même, pourrais-je faire exception? En fait, ça c'est la thèse, antithèse. En fait, cet article, des fois, correspond au désir de l'amour qui prétend à l'éternité. Car l'amour est plus fort que la mort, dit le Cantique des Cantiques, chapitre 8. Or, l'homme ne peut survivre, désir d'éternité, survivre, l'homme ne peut survivre qu'en continuant à subsister dans un autre, soit dans nos enfants, soit dans notre réputation, soit dans un autre, cet autre qui est le Dieu des vivants. Donc je ne peux survivre qu'en continuant à subsister en Dieu. Je continue, je résume Joseph Ratzinger. Je suis en fait davantage moi-même en lui que lorsque j'essaye d'être simplement moi-même. C'est une citation. Remarquez le platonisme. Je serai plus réel en Dieu qu'en moi-même. Ce qui est un peu exagéré. Donc, en se présentant réellement du dehors aux disciples, Jésus, c'est très bien, c'est très juste, après sa résurrection, en se présentant réellement du dehors aux disciples, Jésus, je cite, s'est montré assez puissant pour leur prouver qu'en lui, la puissance de l'amour s'était avérée plus forte que la puissance de la mort. Fin de citation. Donc, triomphe de l'amour sur la mort. Conclusion, la réanimation du corps de Jésus, au moment où il est sorti du tombeau, sa sortie du tombeau, au matin de Pâques, n'est pas nécessaire. Il suffit de professer la survie du Christ par la force de son amour. Et cette survie est garante de ma survie après la mort, par l'amour. Cela ne me rassure pas sur la réalité de ma résurrection future. Donc on garde le mot résurrection, on professera toujours Jésus est ressuscité des morts, et on l'entend comme une survie de Jésus par l'amour. Enfin, est monté aux cieux, je cite Ratzinger, parler d'ascension au ciel ou de descente aux enfers reflète, aux yeux de notre génération éveillée par la critique de Bultmann, un protestant libéral, cette image du monde à trois étapes, à trois étages, que nous appelons mythiques et que nous considérons comme définitivement périmés, page 221. Ça, c'est la thèse. C'est ridicule de croire que Jésus est monté. Donc, c'est les trois étages, l'enfer, la terre et le ciel. Un monde à trois étages, c'est dépassé dans la conception de nos contemporains. C'est périmé, c'est la thèse. Attention, il faut y être toujours une antithèse pour compléter la thèse. Mais je continue la thèse. Selon la relativité d'Einstein, et il a raison, il n'y a ni haut ni bas. Je continue la thèse. Je cite Ratzinger. Cette conception périmée a certainement fourni des images par laquelle la foi s'est représentée ses mystères. Donc au fond, il y a un mystère. Alors la foi a exprimé ce mystère par ces images de Jésus montant. Donc Jésus montant au ciel dans les nuées, c'est une image que la foi a utilisée pour exprimer un mystère. À nous de le décrypter, ce mystère. Nous avons le symbole, la montée de Jésus dans les nuages, un symbole. À nous de décrypter ce symbole pour atteindre le mystère. Mouvement centripète, mouvement d'analyse ou d'herméneutique. Alors, l'antithèse, la réalité. Le mystère, c'est qu'il y a deux pôles dans l'existence humaine, le bas et le haut. Synthèse. Donc, l'ascension du Christ n'est pas dans les dimensions du cosmos, mais dans des dimensions de l'existence humaine. C'est moi qui le dis, mais c'est un résumé. L'ascension du Christ n'est pas dans les dimensions du cosmos, mais dans des dimensions de l'existence humaine. De même que la descente aux enfers représente la plongée dans, je cite, la zone de solitude de l'amour refusé. Et bien de même, l'ascension du Christ, je cite, évoque l'autre pôle de l'existence humaine, le contact avec tous les autres hommes, dans le contact avec l'amour divin, si bien que l'existence humaine peut trouver, en quelque sorte, son lieu géométrique dans l'intimité de Dieu. Donc l'ascension du Christ dans le cosmos, c'est un symbole qui exprime le lieu géométrique psychologique d'une âme qui s'unit à Dieu. Vous voyez, rien de surnaturel, c'est du psychologique. Conclusion de cette exégèse par Joseph Ratzinger, de ces trois articles du Credo, de ces trois faits évangéliques, c'est une citation, une conclusion que je tire. La réalité physique du mystère n'est pas affirmée, ni décrite, ni commentée. Dans ce livre, on ne nous explique pas comment, sous les yeux des disciples, Jésus s'est élevé et a disparu dans les nuages. Comme le dit l'Évangile, on ne fait aucun effort pour affirmer ou décrire ou commenter la réalité physique du mystère. Le sens littéral de l'écriture est passé sous silence, il est mis entre parenthèses. Peu importe la réalité historique, l'important, c'est que les symboles scripturaires, puis dogmatiques, trouvés par l'évangéliste, puis créés par l'Église, que ces symboles puissent représenter l'expérience intérieure du croyant du XXe et XXIe siècle. La vérité des faits de l'Écriture, la vérité du dogme, c'est leur puissance d'évocation des principes, des problèmes existentiels de l'époque présente. La vérité, c'est la puissance d'évocation. La vérité est révélée. Du reste, toute parole, je cite presque le canon de Joseph Ratzinger, dans l'introduction à son Jésus de Nazareth, qui est paru cette année. Donc ça, c'est Benoît XVI. C'est une citation pratiquement. Je résume. Du reste, dit-il, toute parole de poids recèle beaucoup plus que n'en a conscience l'auteur. Elle dépasse l'instant où elle est prononcée. Et elle va mûrir dans le processus de l'histoire de la foi. L'auteur ne parle pas seulement de lui-même, par lui-même, mais il parle en puissance dans une histoire qui va suivre, dans une histoire commune qui le porte et dans laquelle sont secrètement présentes les possibilités de son avenir, cette parole. Le processus de relecture et d'amplification des paroles n'aurait pas été possible s'il n'était pas déjà présent dans les paroles elles-mêmes de telles ouvertures intrinsèques. Donc, c'est une autre notion, c'est la notion d'évolution dans l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc, l'exégèse, c'est-à-dire l'étude et l'interprétation de l'Écriture sainte, devient un art divinatoire. On peut deviner ce que l'écrivain sacré n'a jamais voulu dire et n'a jamais dit. Il suffit d'imaginer qu'il a, que sa parole contient l'évolution ultérieure qu'elle va subir dans l'Église. L'exégèse devient un art divinatoire. L'exégète devine ce que l'auteur sacré n'a ni pensé ni exprimé. L'exégèse est donc un art herméneutique de relecture et d'amplification. Nous allons y revenir. C'est surtout un art de création libre d'un sens spirituel de l'écriture qui n'est pas fondé sur le sens littéral, parce que le sens littéral est mis entre parenthèses. Mais il y a encore et toujours la voie d'immanence décrite par Saint Vitalis dans Pachemco. C'est toujours la transfiguration par l'écrivain sacré de ses sentiments en faits fabuleux, les miracles de Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, les faits fabuleux. C'est moi qui le dis, mais c'est bien cela. Et en retour, c'est la démythologisation de ces faits fabuleux pour les réduire par la réduction anthropologique et naturaliste à des phénomènes intérieurs de conscience. Voilà pour l'exégèse de l'Évangile. C'est donc la méthode moderniste. Les dogmes ne sont que des symboles, les faits évangéliques ne sont que des symboles qui évoquent mes problèmes psychologiques. Ensuite, pour en arriver à cette évolution des dogmes, il faut faire intervenir un philosophe allemand, inspirateur de toute la théologie allemande, et donc qui a influé sur Joseph Ratzinger. C'est Wilhelm Tittey, de 1833-1911, le père de l'herméneutique et de l'historisme. L'historisme. Herméneutique, c'est l'art d'interpréter les faits ou les documents. Historisme, ça veut dire le rôle de l'histoire dans la vérité. Pour Dilthey, comme pour Schelling et Hegel, qui étaient des idéalistes, la vérité ne se comprend que dans son histoire. Mais, alors que pour Schelling et Hegel, la vérité se développe par elle-même, par un processus dialectique que nous allons expliquer, pour Dilthey, la vérité se développe par le processus de réaction vitale du sujet à l'objet. Selon le rapport de réaction vitale entre l'historien, qui se penche sur les faits historiques, et le choc de l'histoire. Ainsi, la richesse émotive de l'historien, ou de celui qui lit l'histoire, sa richesse émotive va enrichir l'objet étudié. Donc à chaque époque, l'histoire se charge de l'énergie d'émotion des lecteurs. Et ainsi, les jugements du passé sont sans cesse colorés par les réactions vitales de l'historien ou du lecteur. Et ainsi, les jugements du passé, selon Joseph Ratzinger, qui s'inspire de cette thèse, doivent, au terme de chaque époque historique, ça c'est selon Dilthey, par exemple, au terme de l'époque moderne, 1962, l'arrivée du Concile Vatican II, c'était le terme d'une époque, et donc on pouvait et on devait réviser tous les faits historiques, les jugements du passé, spécialement sur la religion, pour en dégager les faits significatifs et les principes permanents. Cette rétrospective purifie nécessairement le passé, de ce qui s'était ajouté au noyau de la foi, et cette révision rétrospective agrège nécessairement à la vérité le coloris des préoccupations du présent. Donc il y a un double processus dans la relecture du passé, qui est la purification du passé, des adjonctions adventices, des réactions émotives du passé, ou des philosophies du passé, et d'autre part, deuxièmement, un enrichissement des faits historiques par la réaction vitale actuelle. Ainsi croissent les sciences humaines. Et la foi ne va pas faire exception, selon l'école de Tübingen. La foi va être soumise à cette pensée historiste, dont Joseph Ratzinger est un héritier. Voilà ce qu'il dit dans son discours du 22 décembre 2005, son discours inaugural de son pontificat. Je cite, « La foi exige une nouvelle réflexion sur la vérité et un nouveau rapport vital avec elle. » C'est la même chose, rapport vital. C'est Dilthey. Et il continue, cette interprétation herméneutique, cette interprétation, j'explique, je résume Ratzinger, fut celle de Vatican II, chercher un nouveau rapport vital avec la vérité révélée. Et cette interprétation vitale doit guider la réception du Concile. Donc le Concile a été une interprétation vitale de la foi traditionnelle, et il faut continuer à pratiquer maintenant encore, pour recevoir le Concile, il faut continuer à faire cette interprétation vitale. Avec quel outil ? Avec les philosophies modernes, qui seront, disait Jean 23 dans son discours d'ouverture du Concile Vatican II, les philosophies modernes qui sont par leur méthode d'investigation. Le grand secours pour exprimer la foi dans sa pureté linéaire, c'est moi qui le dis, et dans un langage adapté à nos contemporains. C'est tout le but de Jean 23 dans son discours du Concile du 11 octobre 1962, que cite Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dans sa quasi-encyclique inaugural. Son discours du 22 décembre 2005. Donc il y avait le Concile Vatican II avait un double but, et c'est très bien un but, et nous sommes tout à fait d'accord, il fallait purifier la foi de tous ces artefacts que les siècles passés, non, nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, l'analyse est juste, l'analyse du modernisme, c'est le pur modernisme. Il fallait purifier la foi de tous ces artefacts passés et l'enrichir de nos propres expériences actuelles. Donc, vous voyez, la subjectivité, on offense nos pères dans la foi en disant qu'ils ont déformé la foi par leur subjectivité, ce qui est faux, et on va trahir la foi en lui ajoutant notre propre subjectivité. Voilà la méthode de l'immanence du modernisme. Donc Jean XXIII voulait cela, c'est le but du Concile, purifier la foi et l'adapter. Deux mouvements contradictoires, c'est la quadrature du cercle. Purifier la foi de tous ces artefacts passés et l'enrichir de toutes nos expériences modernes. Bien, voyons comment Joseph Ratzinger va appliquer cette méthode aux deux ou trois grands dogmes de la foi catholique. Donc c'est l'actualité du modernisme. C'est actuel. Premièrement, le dogme de l'incarnation peut visiter à la lumière de l'existentialisme. Alors on va se servir de l'existentialisme. Et on va pratiquer la méthode d'immanence et la méthode de l'historisme. La méthode d'immanence qui dit le principe de l'immanence qui dit que tout vient de l'intérieur, la foi vient de notre intérieur, et la méthode de l'historisme qui dit qu'il y a eu une évolution du dogme, une transformation du dogme. Alors voilà comment présente le dogme de l'incarnation, le théologien Joseph Ratzinger dans son livre « La foi chrétienne » de 1968. La thèse, antithèse, synthèse. La thèse, le philosophe Boèce, qui a vécu de 480 à 526, à la fin de l'Antiquité, a défini la personne humaine, comme le subsistant d'une nature intellective, permettant de développer le dogme des deux natures de Jésus-Christ en une seule personne, définie au Concile de Chalcédoine en 451. Bon, voilà la thèse, c'est classique. Boèce, philosophe chrétien, a éclairci la notion de personne et a aidé à développer le dogme de Chalcédoine. Très bien. Antithèse. Aujourd'hui, Boèce est dépassé par Martin Heidegger, existentialiste allemand, né en 1889, qui voit dans la personne l'auto-dépassement de soi-même, qui est plus conforme à l'expérience que le subsistant d'une nature intellective, un peu abstrait. Alors il préfère l'auto-dépassement. Parce que nous réalisons notre personne en nous dépassant nous-mêmes. Voilà la définition de la personne, selon Heidegger. Donc, conclusion, synthèse, le Christ, l'homme-Dieu, dont nous professons la divinité, très bien, dans le credo, le Christ n'a plus besoin d'être considéré comme le Dieu fait homme. Il est l'homme qui, en tendant infiniment au-delà de lui-même, s'est totalement dépassé, et par là, c'est vraiment trouvé. Il est un avec l'infini, Jésus-Christ. Page 159. Je répète, parce que c'est vraiment, ça vaut la peine d'être lu. Donc, il faut croire que la divinité de Jésus-Christ. Je crois en la divinité de Jésus-Christ. Et il n'y a plus besoin de le considérer comme le Dieu fait homme. Non, il faut considérer que, en tendant infiniment au-delà de lui-même, Jésus est totalement dépassé, et par là, c'est vraiment trouvé. Il est un avec l'infini, Jésus-Christ. Donc c'est l'homme qui se dépasse, à tel point qu'il devient le surhomme, et qu'il devient divin. Voilà le mystère d'incarnation, réinterprété à la lumière de l'existentialisme. Et en même temps de l'historisme. Puisqu'on dit que Boèce s'est dépassé, et qu'il faut préférer Heidegger. Parce que l'expérience de Boèce s'est dépassée, l'expérience de Martin Heidegger correspond à nos problèmes actuels, à nos problèmes psychologiques actuels, l'autodépassement. L'égoïsme vaincu par l'autodépassement. Jésus-Christ a vaincu l'égoïsme radicalement en se dépassant infiniment lui-même, en s'unissant à l'infini. Deuxièmement, le dogme de la rédemption, revu dialectiquement selon Gabriel Marcel. Donc on va utiliser la méthode de la dialectique de Hegel et en même temps l'existentialisme chrétien de Gabriel Marcel. Donc on va utiliser la méthode de Hegel et le principe de Gabriel Marcel. Et toujours, bien sûr, le principe de l'immanence. Vous allez voir ça. Alors, la thèse catholique, depuis saint Anselme, qui a vécu de 1033 à 1109, saint Anselme de Canterbury, depuis saint Anselme, la piété chrétienne voit dans la croix de Jésus-Christ un sacrifice expiatoire. La thèse. Antithèse. Mais le Nouveau Testament ne dit pas que l'homme se réconcilie Dieu, mais que c'est Dieu qui réconcilie l'homme. Deux citations du Nouveau Testament. Et donc, que Dieu exige de son Fils un sacrifice humain, ce n'est pas conforme au message de l'amour du Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu a exigé de son Fils un sacrifice humain, ce n'est pas conforme au message de l'amour du Nouveau Testament. Dieu n'a pas pu exiger de son Fils un sacrifice humain. Du reste, l'Ancien Testament interdisait les sacrifices humains. Donc voilà l'antithèse. Excusez-moi, non, c'est plutôt encore la thèse. Tout ça, c'est la thèse. C'est un ensemble. Autrement dit, si vous voulez cette première donnée, aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter que la croix soit un sacrifice expiatoire. C'était bon pour saint Anselme, mais aujourd'hui c'est impossible parce que notre connaissance du Nouveau Testament, du message d'amour du Nouveau Testament, nous dit que Dieu ne peut pas exiger le sang de son Fils comme un dieu Moloch assoiffé de sang. Excusez-moi le blasphème. Excusez, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des évêques qui ont dit ça. Monseigneur Huyg, évêque d'Arras, il y a 20 ans, en appliquant Ratzinger. Alors voilà, cette négation. Hein, la croix n'est pas un sacrifice d'expiation offert par un homme à Dieu, par l'homme Jésus-Christ à Dieu son Père. La croix n'est pas un sacrifice expiatoire. Cette négation, dans son absolu, par son absolu, elle est tellement absolue, elle engendre sa contradictoire, c'est-à-dire l'antithèse, selon la méthode de Hegel. Toute une série de textes, en effet, du Nouveau Testament, affirme au contraire la satisfaction pénale offerte par Jésus à notre place, à Dieu son Père. On peut citer même saint Isaïe dans l'Ancien Testament, le décrivant l'homme de douleur qui porte nos péchés et qui paye l'expiation de notre péché. C'est nos crimes qu'il portait. C'est pour nos crimes qu'il était défiguré, qu'il était frappé. Saint Isaïe, à l'avance, écrivait la passion de Jésus comme un sacrifice expiatoire. Et toute l'épître aux Hébreux proclame le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Et donc, Ratzinger est obligé Joseph Ratzinger est obligé par l'absolu même de sa négation, il doit poser la contradictoire. Quand même, il y a toute une série de textes de la Sainte Écriture qui affirment, malgré tout, que la croix est un sacrifice expiatoire. Pas de problème. Comment sortir de la contradiction? En particulier que la croix est une satisfaction pour nos péchés, une œuvre de justice opérée par le Christ à notre place pour la justice divine, pour faire justice à son Père du péché des hommes. Synthèse de Joseph Ratzinger, donc synthèse, sur la croix, Jésus s'est substitué à nous, c'est vrai, non pas pour acquitter une dette ou payer une peine, mais pour aimer pour nous. Donc Jésus sur la croix se substitue à nous pour aimer pour nous. La croix, c'est Jésus a aimé pour nous. Pour nous qui ne pouvions plus aimer, on ne sait pas pourquoi, nous étions loin de Dieu, nous ne pouvions plus aimer, sur la croix, Jésus a aimé pour nous. Et donc ainsi, la thèse se reconquiert, enrichie de l'antithèse. C'est bien la dialectique de Hegel. La vérité doit progresser dans l'histoire par une thèse qui, par son affirmation, engendre sa contradictoire. Et cette contradictoire vient finalement enrichir la thèse dans une synthèse. Donc la synthèse, vous voyez, il y a une substitution de Jésus-Christ à notre place sur la croix, simplement pour aimer pour nous. Et vous voyez très bien que dans cette philosophie de Hegel, appliquée à la foi, la thèse et l'antithèse, toutes les deux, bien que contradictoires, sont vraies et sont toutes les deux parties de la vérité. Donc, la négation du départ, Jésus n'a pas offert un sacrifice expiatoire. Et puis, deuxièmement, il y a quand même toute une série de textes qui disent que la passion est un sacrifice expiatoire. Ça concorde, ça va quand même ensemble, la synthèse. C'est un Jésus nous remplace, il aime pour nous. Il se substitue pour aimer pour nous, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Jésus a une charité infinie qui a remplacé nos péchés, mais ce n'est pas tout. Jésus a payé dûment la peine de nos péchés. Vous voyez que l'hérésie consiste dans la négation. L'affirmation est juste, Jésus a aimé pour nous, mais ça ne suffit pas. L'hérésie consiste dans la négation de la peine subie par Jésus volontairement pour nous sur la croix. Et ainsi, vous voyez, selon Hegel et selon Joseph Ratzinger, cette synthèse, dans le futur, rien n'empêche qu'elle devienne une thèse qui, par son absolu, engendre une nouvelle antithèse, qui exigera une nouvelle synthèse. Et ainsi, le dogme pourra évoluer. Notre conception de la rédemption pourra encore évoluer. Indéfiniment. Résultat, je vais citer un petit peu Joseph Ratzinger pour la rédemption. Le sacrifice chrétien n'est autre chose que l'exode du pour, consistant à sortir de soi, accompli à fond dans l'homme, qui est tout entier exode, dépassement de soi par amour. Ce sont des catégories existentialistes. La sortie de soi, l'exode. Donc, la passion du Christ n'opère notre salut ni par mode de mérite, on ne parle pas des mérites de Jésus-Christ, par ses souffrances, ni par mode de satisfaction, on ne parle pas de la peine que Jésus, donc la rédition qu'il nous a obtenue de nos péchés, ni par mode de satisfaction, de rémission, ni par mode de sacrifice, on ne parle pas du sacrifice de la croix, ni par mode d'efficience, d'efficacité, à la manière d'une cause efficiente, rien de tout cela, que pourtant saint Thomas d'Aquin proclame bien dans sa sœur théologique. Non, la passion de Jésus-Christ a opéré notre salut par pure exemplarité du don de soi absolu. Ça veut dire que c'est un exemple extraordinaire de don de soi absolu. Donc, en tant qu'exemple de don de soi, la passion opère notre salut. Voilà le dogme de la rédemption. La croix est donc, la croix de Jésus est une idée platonicienne, pure exemplaire. Exemplaire de quoi? De quelque chose d'intérieur à moi. Le don de moi à Dieu. Le don de moi. Le don de moi-même. Ce qui n'est pas faux, le don de soi. C'est la charité. Mais vous voyez, c'est une erreur. La croix devient seulement un exemplaire du don de soi. La croix est dépouillée de tous ces sous-bots de souffrance, d'avanie subie par Jésus. La croix est dématérialisée. Jésus est décrucifié. Il ne reste que l'amour. La croix est un symbole du don de soi. Peu importe la matérialité des souffrances de Jésus. L'important, c'est que la valeur d'évocation de mon devoir, du don de moi-même. La croix devient une idée platonicienne. Et je cite, continue à citer Joseph Ratzinger, à partir de cette révolution dans l'idée d'expiation, Jésus n'expie pas en payant une peine, mais en aimant à notre place. C'est une révolution, dit-il, dans cette idée d'expiation. On ne parle plus de peine ou de pénitence ou de sacrifice, seulement de don de soi et d'amour. C'est quand même plus valulant et positif. Je cite, à partir de cette révolution dans l'idée d'expiation et donc dans l'axe même de la réalité religieuse, le culte chrétien et toute l'existence chrétienne reçoivent eux aussi une nouvelle orientation. Le culte chrétien et toute l'existence chrétienne reçoivent eux aussi une nouvelle orientation. Le culte chrétien l'existence chrétienne, dont toute la vie chrétienne et toute la liturgie vont être infectées par cette idée platonique. Je vais vous citer quelque chose à ce sujet. C'est la nouvelle messe. C'est la nouvelle messe où l'on où M. l'évêque Nittel, hier, nous a montré que toutes les oraisons du nouveau missel ne parlent plus du combat chrétien contre les ennemis, contre soi-même. Il n'y a plus de pénitence, il n'y a pas d'expiation, il y a juste à aimer. Reste l'amour. Ce n'est pas faux. L'amour, c'est l'arbre de la pénitence. Et on ne peut pas dématérialiser la vie chrétienne et oublier l'aspect pénitentiel, l'aspect quotidien, l'aspect de se vaincre soi-même, de porter sa croix à la suite de Jésus. C'est ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Donc, vous voyez, toute l'existence chrétienne en reçoit une nouvelle orientation. Et le culte chrétien, c'est la nouvelle messe. La nouvelle messe devient la célébration commune de la foi. Ce n'est plus un sacrifice, c'est la célébration commune de la foi. La célébration des hauts faits de Jésus. Le sacerdoce aussi est réalisé dans son essence par Joseph Ratzinger. Je cite, « Vatican II, par chance, a dépassé le niveau de la polémique » qui avait rétréci la vision du sacerdoce au Concile de Trente en voyant seulement un pur sacrificateur, le prêtre. Le Concile de Trente avait rétréci la vision totale et globale du sacerdoce. Vatican II a élargi les perspectives. Alors je cite, Vatican II, c'est Ratzinger, Vatican II a par chance dépassé le niveau de la polémique et a tracé un tableau positif complet de la tradition de l'Église sur le sacerdoce, où l'on a accueilli également les requêtes de la réforme. Vous voyez, le prêtre comme l'homme de la parole de Dieu. prédication de l'Évangile. Ainsi donc, dit Joseph Ratzinger, la totalité du problème du sacerdoce sera même, en dernière analyse, à la question du pouvoir d'enseignement dans l'Église de façon générale. Donc il ramène tout le sacerdoce au pouvoir d'enseignement dans l'Église. Il ne va pas nier le sacrifice, là. Simplement il dit, tout se ramène au pouvoir d'enseignement dans l'Église. Donc même l'offrande de la messe par le prêtre à l'autel, ça doit être relu dans une perspective d'enseignement de la parole de Dieu. Il faut revisiter le sacerdoce, même le sacrifice, même la consécration. Ce n'est rien que la célébration des hauts faits du Christ, son incarnation, sa passion, sa résurrection, son ascension, vécu en commun, sous la présidence du prêtre. On a revisité le sacerdoce. Ce n'est qu'une parenthèse pour vous montrer comment les idées de Joseph Ratzinger de 1968 ont été effectivement appliquées, avaient été appliquées au Concile Vatican II, parce que ça, vous le trouvez dans le décret du Concile sur le sacerdoce. Ensuite, le Christ roi. Nous avons vu l'incarnation, nous avons vu la rédemption, revisitée. Regardons maintenant le Christ roi, sa royauté sociale. Jésus qui a le droit d'imposer sa loi aux lois civiles. Que l'État, la société civile, doit suivre la loi de Jésus-Christ, sa royauté sociale. Eh bien, le Christ roi va être purifié, lui aussi, dans une vision historiste, et par le personnalisme. Ah, ce n'est plus l'existentialisme, c'est le personnalisme. Philosophie moderne. Avec Emmanuel Mounier, personnaliste chrétien français, qui a vécu de 1905 à 1950. Alors, thèse, le personnalisme d'Emmanuel Mounier, voilà l'outil qui a fait défaut à Lamennais au XIXe siècle pour introduire la liberté des cultes en christianisme. Lamennais a voulu introduire la liberté des cultes dans la doctrine chrétienne. Il a été condamné par Grégoire XVI vers 1850. Voilà. Lamennais a été condamné, pourquoi ? Dit Yves Congard, c'est Yves Congard qui dit cela. Lamennais est un condamné parce qu'il n'a pas su et il n'a pas eu l'outil que Emmanuel Mounier allait apporter un siècle plus tard, le personnalisme. L'outil lui a manqué pour introduire la liberté des cultes dans le catholicisme. Antithèse, il suffit aujourd'hui d'utiliser cet outil pour purifier et corriger cette valeur de la liberté religieuse, cette valeur de deux siècles de culture libérale, comme disait Joseph Ratzinger en 1984. On va faire reposer la liberté religieuse non pas sur la vérité du culte, en disant seule la vraie religion a le droit à la liberté, non, non, mais on va faire reposer la liberté religieuse sur le solide fondement de la dignité de la personne humaine. Sur la vérité de la personne, comme disait Jean-Paul II dans Veritatis Splendor. Donc, la liberté des cultes ne repose plus sur la vérité du culte, la vérité objective du culte exercé. Est-ce une vraie ou une fausse religion ? Mais elle repose sur la vérité de la personne, c'est-à-dire, eh bien, sur l'agir libre et responsable de chacun en vertu de ses propres options, comme disait Emmanuel Mounier. Le Concile s'est inspiré d'Emmanuel Mounier. en disant la dignité de la personne est aujourd'hui sans cesse prise en conscience actuellement par nos contemporains. Et chacun revendique davantage d'agir en vertu de ses propres options. C'est presque une citation littérale d'Emmanuel Mounier. Et on en fait la base de la liberté religieuse, du droit à la liberté religieuse. Donc on a remplacé la vérité objective du culte, à savoir le vrai culte catholique, qui est la seule vraie religion, et puis les autres religions ne sont pas des religions, donc ils n'ont pas le droit, on l'a remplacé par, soi-disant, la vérité de la personne, c'est-à-dire la subjectivité de la personne. La liberté que la personne revendique d'agir en vertu de ses propres options. Et c'est donc l'immanence, ma propre option. Selon Emmanuel Mounier, je me réalise, je réalise ma propre personne en, par mes propres options, par mes propres choix de vie, indépendamment de la vérité ou de l'erreur, où je pourrais être. L'important, c'est d'agir en vertu de mes propres options. Ça, c'est Emmanuel Mounier. On n'a pas, simplement, on met entre parenthèses la vérité ou l'erreur. On le met entre parenthèses. Nous n'allons pas le nier. On ne va pas nier qu'il y a une vraie et une fausse religion. Simplement, ça ne nous intéresse pas. C'est toujours la même méthode. On considère seulement l'intérieur. Agir en vertu de mes propres options. Vous voyez très bien la revisite du Christ-Roi, qui n'a plus son mot à dire, qui est découronné. Parce que maintenant, c'est la personne humaine, agissant selon ses propres options, qui fonde le droit à sa liberté religieuse, de pratiquer publiquement dans la société civile le culte de son choix. C'est ce que Vatican II a enseigné dans la déclaration sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae. Venons-en à notre conclusion, je dirais un modernisme perfectionné, un super modernisme sceptique. Sceptique. On ne nie pas la vérité. On ne devient pas athée, franchement. Simplement, on met entre parenthèses le bon Dieu, l'incarnation réellement, la rédemption réelle, le Christ roi. On met tout ça entre parenthèses. Ce qui nous intéresse, c'est que ces symboles évoquent mes problèmes psychiques et m'aident à résoudre mes problèmes existentiels. Alors, j'essaye de conclure, brièvement. 100 ans avant Pachendi, Kant, ça faisait 100 ans avant, voyait déjà dans les dogmes, si vous lisez Kant, c'est intéressant, il avait fait un petit ouvrage intitulé « La religion dans les limites de la simple raison ». Kant voyait déjà dans les dogmes de purs symboles, d'idées morales. Je vous donne des exemples. La Trinité, pour Kant, symbolise l'union en un seul être de 3 attributs, la sainteté, la bonté et la justice. Et la réinterprétation de la Trinité par Kant. Un pur symbole moral, de choses morales. La sainteté, la bonté et la justice. De même, pour Kant, le Fils de Dieu incarné, intéressant ça, le Fils de Dieu incarné n'est pas un être surnaturel. C'est un idéal moral, celui d'un homme héroïque. C'est tout à fait l'inspiration de Joseph Ratzinger. L'homme qui se dépasse lui-même et arrive à l'infini. Un idéal moral. Et l'idée de l'enfer, disait Kant, l'enfer, l'idée de l'enfer, il ne faut lui donner qu'une valeur régulatrice de mes actions. C'est par la crainte de l'enfer, ça sert à pratiquer la vérité. Ça ne veut pas dire que l'enfer existe. On met entre parenthèses. Vous voyez, pour Kant, les dogmes sont de purs symboles. C'est ça. C'est l'essentiel, c'est l'essence du modernisme. Donc, 100 ans avant le modernisme, il existait déjà, simplement à l'extérieur de l'Église. Kant était un protestant, un catholique. 100 ans après, Ce sont des théologiens modernistes, loisirs, qui ont les mêmes théories. Et puis 100 ans après Pachandi, en 2007, eh bien, ce ne sont plus seulement des protestants, ce ne sont plus seulement de simples théologiens, ce sont les plus hauts degrés de la hiérarchie qui professent ce modernisme. À la lumière des noms célèbres de la philosophie moderne, Hegel, Drey, Dilthey, Husserl, Jaspers aussi, Heidegger, Gabriel Marcel et Emmanuel Mounier, et même Jacques Maritain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces super modernistes actuels enrichissent toute la philosophie du 19e siècle, en fait, et l'année passée, enfin, c'était à la page pour eux, enrichis de la philosophie du 19e siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que nous avons vu, ils ont désincarné Jésus-Christ. Et verbum caro factumus, pas besoin. Le Dieu s'est péché. Non, non, l'homme se dépasse. L'homme qui s'est dépassé parfaitement. Ils ont désincarné Jésus-Christ. Ils ont décrucifié Jésus-Christ. L'amour pur à l'extrême. Et enfin, ils ont découronné Jésus-Christ avec plus de brio que loisir. Mais leur foi subjective, aux prises avec les flots du doute dont parle Joseph Ratzinger dans son ouvrage La foi chrétienne, cette foi subjective, aux prises au doute, où Joseph Ratzinger dit que le croyant comme l'incroyant sont toujours dans le doute de leur position, le croyant comme l'incroyant sont toujours dans le doute de leur position, dit Joseph Ratzinger. Donc même le croyant est toujours en prise au doute. Un tel croyant ne peut plus proposer au monde sans Dieu, un monde sans Dieu, en péril de se perdre, comme moyen de salut, qu'un Dieu idéal et hypothétique, le Dieu d'Emmanuel Kant. L'homme devrait chercher à vivre et à organiser sa vie comme si Dieu existait, écrit Joseph Ratzinger dans sa conférence à Subiaco le 1er avril 2005, juste avant d'être élu pape. Voilà la solution sociale pour amener l'ordre dans le monde. L'homme devrait chercher à vivre et à organiser sa vie comme si Dieu existait, selon l'adage des philosophes des Lumières, et Kant, etc., qui ont recherché toujours à trouver des règles universelles pour le monde entier, qui vaudraient même si Dieu n'existait pas. Trouver une morale universelle même si Dieu n'existait pas. Eh bien, on devrait, dit Joseph Ratzinger, trouver aujourd'hui, chercher à vivre, organiser sa vie comme si Dieu existait. Donc, un scepticisme épouvantable qui nous indique l'aboutissement ultime du modernisme. Le modernisme conduit au scepticisme, c'est-à-dire à des chrétiens qui ne sont plus sûrs de ce qu'ils croient. Ils sont dans le doute de ce qu'ils croient. Voilà donc, chers amis, l'actualité plus que jamais de Pachandi face à cet accès aigu de modernisme qui affecte maintenant la chair de pierre elle-même. Eh bien, Pachandi nous prémunit, les pasteurs et les fidèles, contre cette contagion mortelle. Et Pachandi nous indiquait le remède à toute cette fausse philosophie qui est saint Thomas d'Aquin. Le grand remède protecteur pour garder la foi saine, la vraie notion de la foi surnaturelle, un sentiment véritable d'intelligence à la vérité divine reçue du dehors à cause de l'autorité de cette divine vérité. Et saint Thomas d'Aquin qui a frappé ces vérités. Eh bien, nous avons en lui le grand instrument protecteur de notre foi. En effet, c'est parce que cette foi objective catholique concorde parfaitement avec la philosophie de saint Thomas d'Aquin que saint Pédis prescrit au futur prêtre l'étude de la philosophie que nous a léguée le docteur Angélique. Citation de saint Pédis. Et donc je conclurai à cette fièvre sceptique qui affecte les plus hautes autorités dans l'Église aujourd'hui, à cette fièvre sceptique, nous préférons la ferveur thomiste.